L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, c'est une émission au fil de l'eau, comme vous pouvez l'entendre, d'un tout petit ruisseau. Et pourtant, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Et je vais vous présenter deux choses aujourd'hui avec Laetitia.
Bonjour.
Je vais vous présenter un concept que l'association Viceta propose et qui peut être pas mal, et parler également avec elle d'éco-communication, parce qu'elle s'occupe également de communication. Bon, la première chose que j'ai envie de voir avec toi, c'est ce projet de l'association Viceta, parce que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment donné envie de venir voir ça. L'énergie hydroélectrique est vraiment quelque chose de très vertueux, mais qui pose souvent des problèmes. Alors il y a les grands barrages qui posent problème, mais aussi les petits qui vont sur les cours d'eau empêcher les poissons de passer, par exemple. Et vous avez un projet. Je te laisse m'en parler.
Oui, alors un projet qui est parti de Thomas et Loïs, qui sont deux ingénieurs à la base, et qui ont imaginé un objet, une turbine, alors qui est la vis d'Archimède, sur le principe de la vis d'Archimède, mais qui puisse fonctionner en dévalaison pour pas faire remonter de l'eau cette fois-ci, mais pour faire tourner une turbine et produire de l'hydroélectricité. Le principe, c'est que ça puisse servir de toboggan à poissons et de sédiments, en tout cas recréer la continuité écologique sur des seuils existants qui sont à l'arrêt, qui sont pas entretenus, etc. Et le projet avançant, il y a cette turbine qui fait partie finalement de tout un écosystème de la rivière, et donc il y a aussi la passe à poissons, la vanne, et tout ça est pensé dans la philosophie low-tech finalement pour avoir moins de ressources, utiliser le moins de ressources possible, utilisation de bois local, fait avec des artisans, accessible, donc on est sur une idée d'auto-formation aussi pour certaines pièces qui sont plus simples pour réduire les coûts. Et il y a cet aspect aussi, donc biodiversité et préservation aussi du petit patrimoine, parce que on est sur des moulins il y a toutes des traditions de l'histoire à faire valoir, avec finalement un objet qui permet de produire en autoconsommation un petit peu d'électricité, qui va recréer peut-être de la continuité écologique sur le site, et du coup de pouvoir remettre en vie ce petit patrimoine.
Ouais, parce que votre projet, en fait, il est vertueux de bout en bout. Déjà, la vis qui est proposée, elle est en bois. Comment vous l'avez faite fabriquer? Par un menuisier, tout simplement?
Alors, les premiers prototypes ont été faits avec le lycée du bois de Rodez et les PFT Bois. En fait, on avait été lauréat du budget citoyen, d'un budget citoyen de région, qui nous a permis en fait de faire travailler plein d'acteurs locaux. Des lycées, des pôles de transfert technologique, des universités, etc. Et donc la première, elle a été fabriquée sur une machine 5 axes par des étudiants qui sont venus aux portes ouvertes et qui ont vu leur réalisation. Donc ça, c'était chouette. Bon, c'est un bijou au niveau du travail du bois. Après, on a eu différents prototypes où justement, l'idée, c'était de la retravailler sans des grosses machines et pouvoir aussi que des artisans moins équipés puissent la reproduire. Voilà, et après sur des sujets de passe à poissons et de vannes, là c'est pour le coup plus simple à réaliser techniquement par un artisan ou par un particulier qui aura envie de se former.
Et alors cette vis, elle est vraiment, c'est un tout petit ruisseau. On n'imagine même pas qu'il ait pu avoir du grain qui a été moulu ici dans le temps, parce que c'est vraiment tout petit. Elle produit suffisamment, elle produit combien, enfin, de quoi alimenter quoi?
C'est une échelle 1,5, donc c'est une toute petite turbine. Elle fait à peu près 2 mètres, donc elle se met dans la chute en fait du moulin, et la puissance de l'eau fait tourner les pales d'une manière assez lente pour que les poissons puissent circuler, soient pas découpés quoi. Ce qui fait qu'elle produit moins qu'une turbine classique. Et là, on est sur un démonstrateur, donc on va produire 300 à 700 watts sur, qui va nous permettre, nous, d'alimenter le serveur de notre studio de communication, donc, qui s'appelle Révéler Futur. Et en fait, ça permet de montrer un usage direct de la turbine en autoconsommation, c'est-à-dire que on a toute notre infrastructure logicielle de graphisme, d'hébergement de fichiers, comme on dit, de cloud, de visio, d'hébergement de sites internet, qui en fait se trouve hébergé directement dans le moulin, dans le studio, en circuit court. Et on peut dire qu'on peut faire une visio au fil de l'eau avec l'eau qui passe sous le studio, quoi.
Dans l'autoconsommation, il faut le rappeler, hein, beaucoup d'électricité qui est produite actuellement se perd en fait sur les réseaux longue distance, d'où l'inintérêt parfois de faire des grosses productions dans certains endroits isolés pour les amener ensuite vers les grandes métropoles. Plus on produit localement, moins on perd ce qu'on produit et donc plus c'est efficace au final.
C'est vraiment l'idée et c'est pareil pour l'échelle 1. Qui produira autour des 2 kW. Et voilà, c'est vraiment pour un usage en autoconsommation directe, quoi.
Alors, vous avez déjà des gens qui sont intéressés par le projet ?
Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le projet, mais c'est-à-dire que c'est un projet expérimental, il faut le dire, c'est beaucoup de R&D.
Et donc, recherche et développement.
Ouais, recherche et développement. Donc on teste, on fait des partenariats avec des scientifiques aussi pour attester réellement qu'il y ait un impact positif sur la biodiversité du cours d'eau. Voilà, on va regarder s'il y a plus de porte-bois avant, après installation.
Porte-bois, c'est quoi ?
Ouais, c'est des insectes qui sont dans le ruisseau, tous les verrons, les truites de fario. La turbine, elle est chouette, elle laisse passer les poissons, elle est ischio-compatible, comme on dit dans le jargon.
Ischio-compatible.
Ischio-compatible, ça veut dire que les poissons et les sédiments peuvent circuler. Donc voilà, c'est aussi de le prouver, quoi. Et il y a très peu de recherches qui sont faites sur les petits cours d'eau. Il y a très peu de données. Et donc le but de l'association, c'est aussi de transmettre ces données, de publier les résultats, voilà, pour faire avancer les choses. Et enfin, notre idéal, ça serait qu'on puisse finalement avoir, entre la turbine, la passe à poisson, etc., d'avoir tout un système qui permette de rétablir des seuils qui sont à l'abandon et qui bloquent cette continuité écologique et en même temps de restaurer un petit patrimoine sur le territoire, quoi. Et c'est valable pour la France, mais ça peut être valable dans plein d'endroits. On a même eu un partenaire qui voulait l'utiliser sur une station de phytoépuration pour produire de l'énergie, parce qu'ils étaient loin des réseaux électriques. Donc voilà, c'est cette autoconsommation aussi. Donc il y a peut-être d'autres usages qui peuvent voir le jour. Voilà, c'est de l'expérimentation, donc on est assez ouvert. L'association, aujourd'hui, on est une dizaine. On a fait un chantier participatif en juin pour fabriquer le fût de la turbine échelle 1, justement, plus une vanne, plus faire les mesures, justement, de débit, etc., pour la passe à poisson.
Elle est faite, la passe à poisson ?
Non. On attend, justement, on est très en lien avec la DDT, etc. Et donc, on est en train de rédiger une note pour, sur leur conseil pour voir la meilleure conception possible selon leurs recommandations. Voilà, mais là, courant octobre, ça va se débloquer normalement.
Elle est partie d'où, cette idée, en fait, pour de l'assaut ? L'idée, c'était cette vis peut servir, ou c'était essayer de trouver des solutions pour créer de la microélectricité ? C'est parti de quoi ?
C'est parti de deux amis ingénieurs qui avaient envie qui aimaient les moulins. Le village où ils sont nés, il y a un moulin. D'ailleurs, l'échelle 1 va sûrement se faire là-bas. Ils avaient envie de résoudre un problème, justement, de la turbine, c'est comment arriver à fabriquer un objet qui soit le plus vertueux possible, avec la bonne technologie au bon endroit, ou pas de technologie, ou peu de technologie, voilà, pour respecter cette biodiversité et avoir un projet collectif autour de ça. Voilà. Et après, c'est ça la magie un peu de l'association, c'est que petit à petit, on a plein de compétences différentes et hyper importantes qui sont venues se greffer au projet sur de la petite hydroélectricité, sur du modèle économique, sur savoir quel type de turbine il existe, à quoi ça serait utile, sur de la biodiversité, sur du bois. On a un menuisier aussi qui fait partie de l'asso, qui a fait la conduite. Donc c'est un peu la magie du projet, c'est que petit à petit, ça avance lentement mais sûrement, on va dire. Et ça nous permet d'avoir des résultats et d'éprouver aussi cette idée de gouvernance partagée autour des ruisseaux. Quoi. C'est un bien commun et donc du coup, on promet pas la lune en disant on a une turbine magique, vous allez produire, vous allez consommer. Non, c'est des projets qui sont plutôt coopératifs dans le sens où il y a beaucoup d'instances. Parce qu'on traite de sujets complexes quand même. Voilà, la biodiversité, c'est complexe.
Et vous n'allez pas déposer de brevet, ce sera en open source ?
En fait, il y a des choses qui sont... Je pense qu'il y a des choses qui sont brevetées et après, c'est libre d'accès. Mais bon, ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas vraiment. Mais en revanche, voilà, l'idée, c'est effectivement de publier tout ce qu'on peut dans les données et après de pouvoir donner accès un peu sur peut-être le modèle de l'éolienne Pigotte. Ça, c'est en réflexion. Et d'ailleurs, on va le travailler aussi en co-construction avec les parties prenantes, de savoir quel type de formation il faudrait. Mais je pense qu'on va, voilà, on va démarrer par des visites apprenantes, des petits ateliers, et puis peut-être après faire des formations sur une semaine pour fabriquer une vanne, pour fabriquer une passe à poisson, une turbine. Bon, c'est un peu plus complexe, donc c'est là où c'est intéressant d'avoir du réseau. L'idée, c'est pas d'avoir une usine de production de turbines qui partent en camion et qui vont justement.
Mais un modèle reproductible.
Voilà, un modèle reproductible. En local, il y a des moulins dans plein de régions de France et que voilà, il puisse y avoir un réseau d'artisans qui puissent bosser. Le bois, éventuellement le bois local, le pôle technologique, le transfert technologique du coin, enfin voilà, qui puisse la DDT bien sûr du coin aussi. Donc.
Oui, que ce soit éprouvé par une DDT pour qu'ensuite les autres DDT donnent plus facilement les accords aussi.
Oui, ça je sais pas, ça sera à construire. Déjà on construit avec ici sur notre territoire et c'est chouette d'avoir ces échanges parce que c'est des sujets qui sont compliqués et des fois qui peuvent être mal perçus d'un côté par les associations environnementales, d'un côté par... Donc nous on essaye de réunir un peu tous les mondes, voilà. On a le président de la Fédération de pêche, on a voilà, vraiment tous les gens qui sont acteurs de la rivière en fait, autour de la table pour avancer et trouver des solutions qui soient utiles, qui soient durables dans le respect de la biodiversité, qui produisent un peu d'énergie propre en circuit court. Voilà, ça c'est l'idéal.
Super. On va faire une petite pause musicale. Et qu'est-ce que tu as envie d'écouter ?
Led Zepp.
Led Zeppelin, en avant. Alors nous sommes de retour avec Laetitia de l'association Viseta, V-I-S-E-T-A. Vous retrouverez plein d'éléments, site internet sur lequel vous retrouverez beaucoup d'éléments sur leur projet, donc de vis créatrice d'électricité dans le respect de la biodiversité et de la continuité écologique des rivières. L'association a aggloméré tout un tas de compétences, et toi, la compétence que tu as amenée, justement les gens qui iront voir le site internet, toi c'est la com. Oui. Et qu'est-ce que tu as amené du coup dans le projet?
Alors déjà, on est deux au studio Révéler Futur avec Jérémy, et nous c'est un peu par...
Révéler Futur, hein, tu l'as dit très vite.
Révéler Futur, voilà, ce qui fait révéler, parce que nous ce qu'on fait c'est révéler les projets à travers une identité, un récit, et puis après des outils de communication. Et donc avec Jérémy, on cherchait vraiment un moulin à eau pour le coup quand on a choisi de lancer Révéler Futur en 2021. Pour le côté poétique, pour le côté artisanal, pour voilà. Et avec peut-être une idée de faire de l'hydroélectricité, mais bon, j'avais regardé, c'est des gros projets. Le moulin qu'on a trouvé, c'était un tout petit ruisseau, et je suis tombée sur ces budgets participatifs citoyens. J'ai regardé ce qu'il y avait dans le coin, quoi. Et je tombe sur le projet Viseta avec Loïs et Thomas qui veulent faire une petite turbine en bois complètement dans notre philo. Donc on les contacte, on les rencontre, ça se passe super bien et on se dit pourquoi on ne ferait pas le démonstrateur, le prototype au studio avec du coup de la place pour fabriquer, un véritable usage direct avec le studio de communication. Et voilà, et donc ça a démarré comme ça. Donc il y a à la fois de l'aide sur le projet matériellement, physiquement, etc. Et puis sur la communication, donc on a créé toute l'identité visuelle, tout le site internet, la rédaction, et puis aussi tous les dossiers, les recherches de financement et beaucoup de réseaux en fait aussi.
C'est plus que de la com, c'est aussi de l'administratif.
Effectivement, on avait participé, on est dans le programme One Person for the Planet. Et on avait participé, on était dans le calendrier de l'Avent qui était vendu en Nature et Découverte, etc. Et donc il y avait une campagne en plus de financement participatif en quelque sorte. Donc là aussi, c'est comment on fait de la communication pour que les gens aient envie de participer, de donner au projet. On a eu plein de récompenses en plus du budget participatif, aussi des récompenses de concours low-tech, donc ce qui permet d'avoir aussi des financements pour faire avancer ce projet-là qui est de longue haleine.
Le Corentin de Châtel-Perron est venu voir votre projet ?
Eh bien oui, il n'est pas venu, mais en tout cas il nous avait répondu, et puis on est en lien avec le low-tech lab, et puis des low-tech labs il y en a plein sur le territoire. Aussi on est, donc en local, on est très... Il y a beaucoup de personnes aussi de l'Otech Lab de la région et même des régions autour qui s'impliquent.
Par exemple. On est allé dans leur bureau, en fait, je dis ça.
D'accord.
On est allé dans leur bureau à Concarneau, okay. La saison dernière, alors c'est la carotte.
Ouais, super, ouais, c'est vraiment la philo et on est en lien avec eux. Et on a, pour le chantier participatif, eu deux personnes qui venaient du Low-Tech Lab plutôt Aquitaine, je crois, et Pyrénées, mais voilà, on est aussi avec le Techpack de Perpignan, enfin voilà, il y en a plein en local, et c'est vrai que c'est intéressant dans la low-tech parce que c'est un objet qui est un peu atypique. On voit tout ce qui est autour de l'alimentation, beaucoup, pour le grand public je parle, hein. Se chauffer, s'alimenter, se refroidir, se vêtir, tout ça, les besoins vitaux. Hein. Mais sur l'hydroélectricité, c'est vrai qu'il y a peu de choses. Ça reste quand même complexe comme objet, une turbine. Donc c'est pas simple.
Toi, tu fais de la com, donc t'es dans la philosophie de produire ta propre hydroélectricité, mais la com, il n'y a rien de pire pour la planète. Alors l'IA, c'est catastrophique, mais même la com, même avoir un serveur, ce que vous avez, qu'est-ce que tu fais, toi? Est-il possible d'avoir une autre com et une informatique un peu plus éco? On va en parler un petit peu rapidement avec toi.
Oui, tout à fait. Bon, c'est bien que ce soit moi qui parle et pas Jérémy sur l'IA parce qu'il sera peut-être un peu virulent. Donc nous, on ne l'utilise pas dans nos métiers. On suit beaucoup les logiques d'IA éthique, des gens qui font des recherches. Et puis, il faut toujours avoir une vision du monde quand on utilise un outil. Et pour moi, la communication, c'est un outil au service de quelque chose. Donc déjà, Révéler Futur, déjà, on est une SCOP, donc on est en coopérative. Donc on est dans les valeurs coopératives. On accompagne des projets qui ont une vocation sociale, environnementale, des projets de territoire. Et ensuite, on a des méthodes, bien sûr, d'éco-conception, que ce soit dans la création graphique, que ce soit dans le conseil, en fait. C'est-à-dire que des fois, on ne prêche pas notre paroisse et on va dire, ben non, là, c'est inutile de faire une vidéo parce que pour le coup, c'est un poids écologique assez fort.
Dans les serveurs où elles vont être hébergées.
C'est ça. Et donc, peut-être que là, c'est pas ça qu'il faut faire, mais que du son serait plus opportun. Et même, voilà. C'est pour ça qu'on est vraiment, nous, spécialisés sur l'identité de marque, parce que quand on travaille le récit du projet, sa marque avec toute sa singularité, on peut adapter la communication derrière pour qu'elle soit vraiment authentique et qu'on puisse être créatif dans ce qu'on va produire et pas faire la même chose que tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, on ne se dit pas agence de communication, on se dit studio créatif, parce que justement, ce qui nous botte bien, c'est quand il y a de la créativité dans les projets. On a fabriqué une table tactile avec quasiment rien et de la récup. On a Artstock, pas très loin, qui fait de la récupération de théâtre, de décors. Voilà. Donc on a fabriqué une table où, en appuyant sur des boutons de cuivre, on avait une déambulation sonore pour une inauguration d'un tiers-lieu en ruralité. Voilà. Donc on est amené à faire plein de choses très différentes. Et après, il y a aussi effectivement l'infrastructure qu'on utilise. Donc on a un serveur basse consommation. C'est un petit serveur qui consomme pas beaucoup d'énergie et qui nous suffit. Donc il y a aussi une hygiène en termes de poids de fichiers, parce que plus on a de l'espace, plus on en met. Donc,
c'est comme dans les maisons.
Voir dans le garage. Et donc, c'est les poids des fichiers. C'est une sorte d'hygiène, en fait, en quelque sorte. Quand tu produis, tu fais des fichiers moins lourds, tu compresses. C'est d'effacer les versionnings, etc. C'est de toujours avoir besoin de ce que tu as besoin, pas plus, quoi. Donc quand tu produis, même quand tu fais une identité visuelle, un logo, etc., comment tu peux réduire au maximum aussi ton impact en termes d'impression.
Ça, c'est par rapport aux couleurs.
Voilà, par rapport aux couleurs, par rapport au papier, par rapport... Il y a plein de techniques. Après, il y a le fait de communiquer moins aussi. Si tu as une identité qui est puissante, qui est singulière, t'es pas obligé de tous les jours dire des trucs pour rien dire. Tu vas avoir des prises de parole qui sont fortes, donc c'est comment tu cadences ta prise de parole, qu'est-ce que tu fais, est-ce que t'es pas plus dans de la présence aussi, à aller vers les gens plutôt que tout digital. Et après, je finis sur l'infrastructure, sur le serveur, on s'est fait accompagner par une SCOP pour laquelle on travaille, qui est à Dijon, qui s'appelle Cadol, qui est spécialiste sur les logiciels libres. Et donc, ils nous ont aidés à faire notre infrastructure. Et on est sorti de tout ce qui est GAFAM pour pouvoir...
Les GAFAM, on rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Google, Facebook, tout ça. Tous les géants américains de la Silicon Valley.
Dont nous sommes les clients quand c'est gratuit.
Voilà, c'est ça. Et là, en ce moment, c'est vraiment... nous, on utilise par exemple le réseau social professionnel LinkedIn qui est américain. Et en fait, ils sont en train de demander pour vérifier les comptes une carte d'identité, par exemple. On ne le fait pas, mais jusqu'à quand ça va bloquer ou pas. Ensuite, sans le prévenir, il y a une petite mention à cocher parce qu'ils utilisent dans les données confidentielles les données pour nourrir l'IA. Donc ça veut dire que tout ce que vous produisez, tout ce que vous postez, toute la créativité que vous mettez qui est propre, elle est reprise et moulinée par l'IA qui va utiliser en fait ça pour produire des choses. Donc voilà, il faut décocher. Et on réfléchit, on est déjà sur des logiciels open source, donc des logiciels libres qui ne sont pas propriétaires.
Qui s'appellent ? Parce que c'est vrai que tout le monde est chez Google en général, et Word et Microsoft. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ouais. Alors nous, on utilise Nextcloud pour tout ce qui est le cloud, quoi, qu'on appelle le nuage. On essaye de revenir sur des mots français un peu. Pour l'hébergement de fichiers, etc. On a Galen pour la visio. Il y a pléthore de petits services comme ça qui gravitent et qui peuvent être utilisés. C'est la difficulté qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on peut, si on veut... faire entendre d'autres voix, pas les voix qu'on a l'habitude d'entendre. Si on veut changer un peu les choses, il faut bien passer par les médias traditionnels, ou sinon on est moins audible. C'est ça la difficulté. Mais en parallèle, construisons d'autres outils avec une souveraineté, avec du libre, etc., pour anticiper et passer à d'autres choses. Et peut-être ramener les gens sur d'autres choses. Donc sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui se font aussi. Et donc c'est vers, à mon avis, En Europe, on devrait prendre ce parti-là, de se dire, bah allez, on fonce vers ça pour avoir une souveraineté, pour pas être dépendant de l'IA. On voit que ça y est, ça commence à être payant en plus, donc c'est encore une fois les plus riches qui vont accéder aux services, qui vont toujours cette pensée dominante. Donc voilà, effectivement, c'est un jeu. Une fois, on m'avait dit, oui, mais les marques, tout ça, les marques pour communiquer sur des... C'est un outil, donc voilà.
C'est pas des marques de fringues. Quand tu dis marque, c'est pas...
Les marques, non, c'est pas forcément des marques de fringues. Ça peut être une fondation. Par exemple, Greenpeace est une marque, en fait. Hein. C'est ça. Après, si un jour, on peut se passer des marques, je pense que dans un monde où, effectivement, on aurait besoin vraiment que de la... On pourrait avoir besoin que de la low-tech, on pourrait se passer des marques. Jamais de la communication. Parce que la coopération, la communication, l'entraide, la culture, tout ça, pour moi, ça façonne les relations sociales et ça passera jamais. Après, la marque, si un jour on peut s'en passer, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on prépare les buts et le jardin pour être un peu plus autonome. Et voilà, et le but de Révéler Futur, c'était de travailler avec nos méthodes pour des projets qui ont du sens. Et du coup aussi de pouvoir avoir plus d'autonomie sur le lieu, alors au niveau énergétique avec la turbine, au niveau alimentaire avec le potager, pour avoir besoin de moins de pouvoir d'achat et du coup pour pouvoir aussi plus choisir tes clients ou moins travailler pour faire d'autres choses.
Ou pas être obligé de leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin pour gagner ta vie.
Exactement. T'as tout compris, c'est la philo.
Et alors, parce que vous étiez... en général, les communicants, c'est assez rare de les trouver dans des petits coins de campagne isolée. Vous venez de la ville, ça a été un projet.
Alors, on vient de la ville, oui et non. Moi, je suis de la campagne forésienne, donc vers Saint-Étienne. Jérémy est de la campagne toulousaine plutôt. Après, on a fait nos études. Et l'emploi étant dans les bassins d'activité, on a travaillé dans des métropoles. Voilà. Donc on n'est pas urbain ou citadin à la base, c'est pas ce côté néo-ruraux, ça me fait un peu rire aussi parce que bon oui effectivement on a passé peut-être 10 ans à travailler plutôt vers la ville, mais c'était une envie bien sûr d'aller vivre à la campagne et de faire, je crois qu'on aime bien faire les choses différemment aussi, autrement, faire autrement, montrer que c'est possible de faire d'autres choses. C'est toujours ce truc de créativité et de curiosité, tu vois. C'est né, cette histoire de moulin, c'est né dans nos têtes, je ne sais pas comment. Et voilà, et en fait, ça a amené tout ça au fur et à mesure, et le projet évolue avec les gens qui viennent s'y greffer, et c'est ça qui est chouette, voilà.
Parce que la campagne n'est pas déserte, il y a plein de gens, et il y a plein de gens en recherche d'autres choses, et il y a plein de gens qui ont envie de se connecter pour créer un autre monde.
Clairement, et on est bien mieux là, nous on n'a aucun regret, ça fait... Ça fait 4 ans que du coup la SCOP est lancée. On est ravis et cette année on travaille énormément sur le territoire. Là où la première année on a beaucoup travaillé avec nos connaissances et donc l'avantage aussi c'est qu'on peut travailler à distance, c'est vrai. Mais le but c'était quand même de faire rayonner notre territoire, d'amener des choses. Donc voilà, maintenant on travaille avec des artisans, on travaille avec des collectivités, on travaille avec des entreprises du territoire mais au-delà, c'est sûr. Mais ça a beaucoup de sens. Et puis, je donne une petite indication, on a vraiment tout ce massif pyrénéen qui fait qu'on appartient à un territoire qui est très divers, donc de la Méditerranée à l'océan. Plutôt que de se tourner vers les métropoles, on est plus tourné finalement vers la montagne, avec tout ce que ça implique comme transition aussi, comme vivier de gens... qui sont là depuis des décennies, comme d'autres, des nouveaux, des petits nouveaux qui arrivent et qui viennent se mettre dans le décor et essayer de faire les choses différemment.
Bon, super. On rappelle donc l'association Viceta, si vous voulez faire de l'hydroélectricité en harmonie avec la rivière et tout ce qui vit dedans. Et la boîte de com, hein,
Rêver les futurs.
Rêver comme rêver, hein.
Ouais.
Rêver les futurs. Merci beaucoup, Laetitia.
Merci à toi.
Au revoir.
À bientôt.
Lancez la carotte et écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.